Suzanne Truchet. Suzanne, un prénom aux saveurs de miel et de sésame. Un prénom un peu ensoleillé, comme la région d'où elle vient, comme Orange, comme le Sud. Suzanne a 24 ans. Suzanne vit à Genève depuis une année. C'est une réfugiée huguenote. Elle travaille comme domestique au service d'autres réfugiés huguenots. Elle vit avec ses maîtres chez une logeuse à Saint-Gervais. Elle dort sur une paillasse et les archives ne gardent pas trace d'une famille ou d'un entourage proche la concernant. Est-ce qu'elle a des amis ? À quoi est-ce qu'elle rêvasse dans la solitude de certains après-midi ? Est-ce qu'elle vibre des émois des jeunes gens de son âge ? Est-ce que le Sud lui manque ? En avril 1704, sa logeuse l'accuse de divers vols au sein de la maison. La liste des objets manquants est longue et anecdotique à la fois. Le témoignage de son enfant, laissé seul un dimanche durant le premier prêche, achève de sceller ses soupçons. L'enfant raconte avoir entendu Suzanne faire un marché en monnaie étrangère sans pouvoir rapporter ce qu'elle vendait. Elle est une coupable tout indiquée, Suzanne. C'est une réfugiée, une étrangère. Elle n'est pas mariée et elle est pauvre. Son maître recourt à une position neutre en attestant de la bonne conduite de sa servante, tout en soutenant la logeuse lésée. Suzanne se retrouve donc face à son maître, sa logeuse et un pasteur convié pour l'occasion afin de lui faire avouer son crime. Les enjeux sont grands malgré l'absence d'une procédure pénale. Les sanctions, en cas de vol domestique, peuvent aller jusqu'à la peine de mort à Genève, comme partout en Europe. Suzanne est scrutée. Suzanne se tortille. La perquisition de sa chambre ne permet pas de retrouver les objets disparus, mais on y découvre un bas d'homme en mauvais état. Il appartient à un garçon qu'elle voyait familièrement, dit le registre, et que son maître lui avait défendu de voir. Suzanne ment. Suzanne tangue. La logeuse prend ce mensonge comme une preuve de la malhonnêteté générale de Suzanne. Elle l'insulte, la frappe et la menace en lui promettant que le bourreau la mènera à plein palais pour y être pendue. Suzanne panique. Suzanne vacille. Peut-être qu'elle entend sa propre respiration. Que son souffle saccadé recouvre le reste du bruit, des insultes et des reproches. Peut-être qu'elle a le vertige. Sourde, sans issue, saisie d'une furieuse envie que ça s'arrête, qu'on la laisse, c'est pas vrai! Il faut la croire. Plus rien n'est vrai, seulement son souffle qui bouche l'horizon et menace de le faire éclater. Alors elle s'élance, elle s'enfuit, elle court, elle traverse la place Saint-Gervais. Elle est poursuivie, elle est hors d'haleine. Suzanne plonge. Suzanne tombe. Elle se jette dans les épuisoirs du Rhône. Est-ce qu'elle a l'intention de se tuer ? Est-ce que tout va trop vite ? Est-ce que la seule façon possible de reprendre son souffle, c'est de remplir ses poumons d'eau ? Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de Suzanne lorsqu'elle saute, lorsqu'elle se jette furieusement vers la mort. Suzanne, avec son prénom aux saveurs de miel et de sésame. C'est le mois d'avril. L'eau doit être froide. Suzanne qui vient du Sud, qui a fui les persécutions réservées aux gens de sa religion. C'est un acte pour la vie de se réfugier. C'est tenter sa chance que d'émigrer. Suzanne essaie de vivre jusqu'à Genève, jusqu'au mois d'avril 1704, jusqu'à se jeter dans le Rhône. Ce Rhône dont les eaux s'écoulent vers le Sud la ramène d'où elle vient dans un flux permanent. Une fuite merveilleuse. En mettant fin à sa vie, Suzanne commet un crime de meurtre contre soi aux yeux de la loi. Le registre détaille cependant. Don Opiné, il a été dit qu'ayant égard à l'état où la crainte a mis cette fille, aux menaces et aux poursuites de la femme Guinée, et du monde qu'elle avait ému contre elle, ce qui lui ayant pu fait perdre le sens, il n'y avait pas lieu de la traiter à la rigueur de la loi. Mais seulement de la faire enterrer dans le cimetière de l'hôpital, et néanmoins sans les honneurs ordinaires. Suzanne partie, Suzanne finie. De l'autre côté du voile du temps, toujours, passe le Rhône, imperturbable.